Véroa Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Claire Morin-Gibourg avec vous. Bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir. Au Mali, la junte a convoqué samedi et dimanche prochain des concertations nationales sur la transition. En Guinée, l'opposition veut remobiliser face à la candidature d'Alpha Condé pour un troisième mandat. 5 morts au Cameroun après 2 attaques attribuées à Boko Haram dans l'extrême nord du pays. Ici aux États-Unis, le président Donald Trump se rend à Kenosha après plusieurs nuits d'émeutes contre le racisme et les violences policières. Également, dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord, le journal. Au Mali, les militaires à la tête du pays depuis 2 semaines ont fait un pas vers la transition devant ramener les civils au pouvoir. Ils ont fixé à la fin de la semaine la tenue de concertation avec les partis et la société civile. De Bamako, les précisions de Kassim Traoré.
Après avoir échangé avec les acteurs de la classe politique, les syndicats, les groupes sociopolitiques, sans oublier les magistrats et les avocats, le Comité national pour le salut du peuple convie les Maliens aux concertations nationales sur la gestion de la transition. Colonel Malick Diaw, premier vice-président du CNSP.
Le Mali aujourd'hui a besoin de tous les Maliens. Donc actuellement tout se passe très bien. Une bonne feuille pour la transition, mais aussi une bonne architecture. Voilà pour mettre en place une bonne transition.
La question de la transition malienne avait déjà été traitée par les chefs d'État de la CEDEAO.
J'espère seulement que les Maliens vont se parler, ils vont comprendre qu'il est mieux peut-être de prendre cette fois-ci un peu du temps. C'est un problème malien et donc il doit se régler à la malienne. Nous sommes un pays souverain, hein, donc moi je pense que la CEDEAO, il ne doit pas nous mettre à genoux pour nous imposer certaines décisions. Il faut qu'il y ait aussi une vision au niveau de la situation du Mali.
En tout cas, tous les Maliens sont contents. Le 5 et 6 septembre prochain au Centre international de conférence de Bamako afin d'avoir une feuille de route consensuelle pour la transition malienne. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En Guinée, l'opposition a annoncé la reprise prochaine des manifestations contre un troisième mandat du président Alpha Condé après l'annonce par son parti de sa candidature à la présidentielle du 18 octobre. Yacouba Ouédraogo.
Le Front national pour la défense de la Constitution, collectif de partis, syndicats et membres de la société civile, a affirmé que la contestation contre le troisième mandat du président Alpha Condé va entrer dans une phase décisive. Le FNDC appelle à se préparer à la reprise des manifestations à une date qui sera bientôt annoncée, qualifiant d'illégitime cette troisième candidature de M. Condé. Hier, le RPG a annoncé que le chef de l'État, 82 ans, élu en 2010 et réélu en 2015, a accepté d'être son candidat à la présidentielle du 18 octobre. Selon les partisans de M. Condé, l'adoption de la nouvelle constitution qui limite le nombre de mandats à 2 permet au président de remettre les compteurs à 0. Le FNDC déclare qu'il est désormais évident que M. Alpha Condé, qui revendique des décennies de lutte pour la démocratie en Guinée, n'est autre que la plus grande désillusion de l'histoire politique du pays. Depuis octobre, ce collectif a fait descendre à plusieurs reprises les Guinéens dans les rues. La répression de ces manifestations a fait des dizaines de morts.
Au Cameroun, 2 attentats attribués à la secte Boko Haram ont fait au moins 5 morts et plusieurs blessés la nuit dernière. Ces attentats ont eu lieu dans l'extrême nord du pays, proche du Nigeria. Plus de détails avec Mohamedou Oumfa.
La première attaque s'est produite dans un camp de déplacés à Kouyapé, dans la commune de Kolofata, près de la frontière avec le Nigeria. Selon une source sécuritaire, les assaillants en grand nombre et armés d'explosifs ont fait irruption vers minuit. Les militaires camerounais alertés sont intervenus et les ont repoussés. Au moment de s'enfuir, l'un d'eux a actionné une charge explosive qui a tué 4 civils. Un élément de Boko Haram a été neutralisé. Toujours hier nuit, dans une autre attaque, au moins une personne a été tuée et 3 autres blessés dans la localité de Tarakashi. Le village Kouyapé, où s'est produit la première attaque, a déjà été la cible d'un attentat kamikaze en 2016. Une dizaine de personnes avaient trouvé la mort dans une mosquée à l'heure de la prière. Le 2 août dernier, le camp de déplacés de Ngetchiwe, un autre village de la région, a été le théâtre d'une attaque qui a fait au moins 19 morts.
Le procès de l'ex-président soudanais Omar el-Béchir et de 27 autres personnes jugées pour le coup d'État de 1989 a été reporté une nouvelle fois au 15 septembre. Nathalie Barge.
L'audience a été ajournée car les avocats ont exprimé leur inquiétude quant au manque de distanciation physique dans une salle comble où peu de personnes portaient des masques. Retardé plusieurs fois depuis juillet, ce procès est inédit dans le monde arabe où aucun auteur de putsch réussi n'a été jugé dans l'histoire récente. Omar el-Béchir a comparu dans un box avec les autres accusés, parmi lesquels ses anciens vice-présidents Ali Ousmane Tah et Bakri Hassan Saleh. Le président déchu risque la peine capitale pour avoir renversé le gouvernement du premier ministre Sadek al-Mahdi il y a 31 ans, lors du troisième coup d'État depuis l'indépendance du Soudan en 1956.
Toujours concernant le Soudan, le Premier ministre Abdallah Hamdok a affirmé à Khartoum que l'accord de paix de Djouba, paraphé hier par les autorités soudanaises de transition et plusieurs mouvements rebelles, crée un nouvel État soudanais et remédie aux injustices du passé. Crise en Libye, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a qualifié de priorité absolue le dossier libyen lors d'un déplacement à Tripoli, où il a discuté des moyens de renforcer le cessez-le-feu et de relancer les pourparlers entre pouvoirs rivaux. Les députés tunisiens doivent voter aujourd'hui la confiance à un nouveau gouvernement pour la troisième fois en moins d'un an. Plusieurs partis ont annoncé à la dernière minute un soutien qui pourrait permettre au gouvernement d'obtenir cet accord.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le président Donald Trump est attendu aujourd'hui aux alentours de 13h heure locale à Kenosha, dans l'état du Wisconsin, où un Afro-Américain, Jacob Blake, a été grièvement blessé par les tirs d'un policier blanc. Plus de détails avec Abdourahman Dia.
À la veille de son déplacement, le président américain a défendu la police, déclarant « Nous devons redonner à nos policiers leur dignité, du respect ». Parfois, il y a de mauvais policiers, mais d'autres fois, ils prennent seulement de mauvaises décisions. Ils craquent. Il n'a pas prévu de rencontrer la famille de Jacob Blake, expliquant qu'il avait refusé d'avoir affaire à leurs avocats. « J'ai parlé avec le pasteur de la famille, un homme magnifique », a-t-il dit. Pour le président Trump, sa visite à Kenosha peut aussi apporter de l'enthousiasme, de l'amour et du respect pour le pays. Le 23 août, un policier a tiré 7 fois à bout portant dans le dos de Jacob Blake, déclenchant une nouvelle vague de protestations. 2 manifestants ont été tués par un jeune blanc venu de l'État voisin de l'Illinois lors d'affrontements dans cette ville du Wisconsin. Les 2 candidats à la présidentielle, Donald Trump et Joe Biden, se rejettent la responsabilité de ces violences.
Joseph Kennedy III, candidat mardi à la primaire démocrate pour un poste de sénateur du Massachusetts, est donné perdant face au sortant Edward Markey. Il pourrait être le premier Kennedy battu dans cette région, berceau de la plus célèbre des dynasties politiques américaines. Le petit-neveu du président John F. Kennedy et petit-fils de son frère Robert, assassinés respectivement en 1963 et 1968, passaient pour une étoile montante du Parti démocrate et semblaient bien partis pour détrôner M. Markey, élu du Congrès depuis 44 ans, dont 7 au Sénat. Le Massachusetts étant un bastion démocrate, le vainqueur de cette primaire tardive est quasiment assuré d'être élu en novembre. Les États-Unis ont formellement mis en garde ce mardi contre les activités balistiques de la Corée du Nord, qui se poursuivent et continuent de représenter une menace significative pour la stabilité régionale et mondiale. Cet avertissement vise à prévenir les acteurs économiques mondiaux des risques qu'ils encourent en cas de transaction avec la Corée du Nord. L'épidémie de coronavirus dans le monde a fait plus de 851 000 morts et 25,5 millions d'infections ont été diagnostiquées. En Europe, des millions d'enfants ont repris le chemin de l'école, masques sur le visage. À New York, la rentrée a été repoussée au 21 septembre. Un protocole d'ouverture a été trouvé avec le principal syndicat d'enseignants qui menaçait de lancer une grève, jugeant les mesures sanitaires insuffisantes. Selon l'UNESCO, seul un élève sur trois dans le monde va retrouver le chemin de son établissement scolaire en cette fin d'été à cause du coronavirus. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco avec Nathalie Barge.
En République démocratique du Congo, le ministère de la Communication a accordé un moratoire de 30 jours à partir du 31 août aux chaînes de télévision œuvrant dans l'illégalité. Le gouvernement dit se réserver le droit d'interrompre le signal des opérateurs qui ne sont pas en règle vis-à-vis du Trésor public à l'issue de ce délai. Plusieurs chaînes ont vu le jour depuis l'arrivée de la télévision numérique terrestre, un secteur qui peine à se structurer. Le président kényan Uhuru Kenyatta a ordonné au ministère de la Santé de publier les détails de tous les achats effectués durant la pandémie de Covid-19 après des accusations de détournement de fournitures médicales. Des cadres de l'organisme officiel KEMSA sont accusés d'avoir dérobé 400 millions de dollars de fonds publics destinés à l'achat d'équipements pour les hôpitaux. Le patron de l'agence et d'autres hauts responsables ont été limogés. Le groupe nigérian Bua et la société française Axens ont signé ce mardi un contrat pour un projet pétrolier au Nigeria. L'accord porte sur des technologies nécessaires pour construire une raffinerie d'une capacité de 10 millions de tonnes par an. Le site, dont le démarrage est prévu en 2024, sera implanté dans l'état d'Akwa Ibom. La production pétrolière représente 90% des revenus d'exportation du Nigeria, mais le pays importe son carburant raffiné.
Et maintenant, la page sport, présentée ce soir par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Nous commençons par des nouvelles de transfert. Yacouba Sogné, l'attaquant burkinabé d'Ashanti Kotoko au Ghana, en fin de contrat, a signé avec Young African Sport Club en Première Ligue zambienne. Le Sénégalais Mambiram Diouf, 32 ans, a quitté Stoke City en Championship anglaise pour rejoindre Atiyaspor, le promu de 2-1 en Turquie. Le gardien de but marocain Yacine Bono, prêté par Gironde au FC Séville, reste finalement chez les Andalous. Un contrat de 4 ans attend Bono avec le club espagnol, récent vainqueur de la Ligue Europa, grâce aux performances du portier des Lions de l'Atlas. Bono a un nouveau coéquipier, le milieu de terrain croate Ivan Rakitic, 32 ans, qui a quitté le FC Barcelone pour revenir dans le club qu'il a révélé au grand public. En Italie, Zlatan Ibrahimovic, bientôt 39 ans, prolonge pour une saison son contrat avec l'AC Milan, où la star suédoise est revenue en janvier dernier. Athlétisme, plus de 300 athlètes spécialistes des courses sur route font partie d'un nouveau programme antidopage, a annoncé l'unité d'intégrité de l'athlétisme. La saison des courses sur route internationale frappée par la pandémie du nouveau coronavirus, annulation des marathons de New York, Berlin, Paris et autres, reprend dimanche en Bosnie-Herzégovine avec en point d'orgue le duel attendu entre le Kenya Eliud Kipchoge et l'Éthiopien Kenenisa Bekele au marathon de Londres le 4 octobre. Un nouveau système antidopage de surveillance et de contrôle inopiné a été créé spécifiquement pour les courses sur route en 2019. Basketball, Miami a surpris Milwaukee 115-104 pour enlever le match numéro 1 de leur demi-finale de conférence Est en NBA. Oklahoma City a arraché un septième match du premier tour face à Houston 104-100. Conséquence, les Los Angeles Lakers devront attendre demain pour connaître leur rival en demi-finale. Toujours en NBA, l'ailier des Pelicans de la Nouvelle-Orléans, Brandon Ingram, a été désigné joueur ayant le plus progressé de la saison 2019-2020. Il a devancé l'intérieur de Miami, Bam Adebayo, deuxième, et le prodige slovène de Dallas, Luka Doncic, rookie de l'année passée. Ingram, 22 ans, compte 23,8 points de moyenne. Toujours ici aux États-Unis, mais cette fois-ci en tennis, Novak Djokovic, numéro 1 mondial, a dominé le Bosnien Damir Nzubu 6-1, 6-4, 6-1 au premier tour de l'US Open, portant à 24 sa série de matchs victorieux d'affilée depuis le début de l'année. Djokovic affrontera au deuxième tour le Britannique Kyle Edmund. Le Serbe vise un quatrième titre au tournoi new-yorkais, qui serait son 18e majeur et qui le rapprocherait de ses rivaux, Federer qui en a 20 et Nadal 19.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Claire Morin-Gibourg, toujours avec vous. Place au dossier du jour. En Guinée, c'est officiel, le président sortant Alpha Condé est candidat à l'élection présidentielle du 18 octobre prochain, selon son parti, le RPG Arc-en-Ciel. Le président Condé avait été désigné candidat le 6 août dernier par son parti. Selon un communiqué lu à la télévision nationale, le président guinéen a favorablement répondu à l'appel de sa formation politique. Nous faisons le point avec notre correspondant en Guinée, Zakaria Camara.
C'est peut-être la fin du suspense, peut-être parce que la confirmation de la candidature du président Condé est faite par son parti qui, une nouvelle fois, réclame le président sortant pour porter les couleurs du RPG Arc-en-Ciel à la prochaine élection présidentielle. Dans la capitale, l'annonce fait des réactions.
Ce qui a été lu hier, c'est un non-événement. Pourquoi pas Alpha Condé, on l'a invité au palais du peuple, il n'est pas venu pour dire oui devant les gens. Il fait ça par écrit.
La déclaration qui est passée hier, je mets ça tout simplement au compte d'un parti politique qui sont en train d'influencer la communauté ou le peuple. Lui-même, il n'a rien dit. Pourquoi lui-même, il ne peut pas parler? Il n'a qu'à nous dire ses intentions. C'est sur cette base que nous allons l'apprécier. Voilà. Sinon, moi, jusqu'à preuve contraire, je dirais que Alpha, il n'est pas prêt à aller au présidentiel d'octobre 2020.
L'annonce a été faite lundi soir à travers un communiqué lu en direct à la télévision nationale. Alpha Condé a accepté d'être le candidat du parti sur la base d'un programme de gouvernance en faveur des jeunes et des femmes. Le parti de la majorité a soumis une proposition de pacte pour l'application de ce programme, a fait savoir le RPG Arc-en-Ciel. Ce citoyen ne semble pas surpris.
Un deal en quelque sorte, et je pense qu'il fallait donner cette forme-là à la démarche pour donc Alpha officialise sa candidature. Mais le jour où Alpha demandait ça, moi je pense aussi que c'était une manière pour lui de faire les yeux doux à ceux qui, dans sa base politique, étaient fâchés en ce moment-là, Sigiri et Kankan. Donc c'était un signal qu'il envoyait aux gens de la Haute-Guinée. Donc quand Alpha dit pensez aux anciens, pensez aux jeunes, c'était politiquement stratégique, le temps de calmer les ardeurs et que pratiquement 25 jours après maintenant, on dise maintenant c'est bon, on officialise tout et tout.
Autre réaction, celle du Front National pour la défense de la Constitution. Le collectif dénonce une candidature anticonstitutionnelle et appelle à la reprise des manifestations en Guinée. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Au Congo-Brazzaville, un ancien ministre des Finances du président Sassou Nguesso, devenu opposant, s'est déclaré candidat à l'élection présidentielle de 2021. Investi par son parti, l'ARD, le week-end dernier, Mathias Nzon a l'ambition de sortir le Congo du chaos où il se trouve, selon ses propres termes. De Brazzaville, la correspondance d'Arsène Séverin.
La demande lui a été faite ce week-end par sa plateforme politique, l'Alliance pour la République et la Démocratie, l'ARD, qui sortait d'une convention nationale. Pour l'ARD, Mathias Nzon, 73 ans, est désormais l'homme de la situation au Congo.
Face à la dérive actuelle du pays, les participants à la convention de l'ARD demandent instamment à Mathias Nzon, président de l'ARD, de se porter candidat à l'élection présidentielle de 2021 dans le dessein de sortir le Congo de la crise la plus terrible de son histoire.
L'ancien ministre des Finances du président Denis Sassou Nguesso entre 1997 et 2002, Mathias Nzon, qui n'a plus été élu député dans son fief de Gamboma dans le centre du pays, se dit prêt à relever le défi.
L'homme idéal n'existe pas. Notre volonté, c'est de tout faire pour sortir ce pays de ce chaos actuel. Si les autres m'ont proposé, c'est dans ce but-là. Mais assigner le devoir et la mission de participer à l'élection afin de construire un Congo nouveau, hein, avec des hommes nouveaux et avec une politique nouvelle.
Candidat malheureux à l'élection présidentielle présidentielle de 2009, Mathias Nzon avait boycotté celle de 2016, dénonçant de mauvaises conditions d'organisation du scrutin. Sur les nouvelles motivations de cet acteur politique qualifié d'opposant radical, le politologue Constant Ebara Peya analyse.
Oui, il y a des éléments que Jean-Mathias peut mobiliser. Et lorsque vous avez en face un régime qui a battu tous les records de l'impopularité et de l'illégitimité comme celui que nous avons, tout candidat sérieux peut le battre. En essayant un peu de flirter ou bien de capitaliser les souffrances ou bien les frustrations des populations, il peut effectivement mettre en difficulté le pouvoir de Brazzaville. Maintenant, ça dépendra comment est-ce qu'il va structurer son discours.
Contrairement à Mathias Nzon, Sassou Nguesso, 77 ans, désigné lui aussi candidat par son parti, le PCT, en décembre dernier, n'a toujours pas dit s'il briguerait un nouveau mandat. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Au Gabon, fin du premier tour du baccalauréat session 2020. L'heure est aux corrections des épreuves avant l'annonce officielle des résultats prévus cette semaine. Mais en raison de la Covid-19, la proclamation du baccalauréat se fera par messagerie SMS. C'est une décision du ministère gabonais de l'Éducation nationale. Les précisions de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze.
La décision de publier les résultats du baccalauréat par messagerie fait débat dans l'opinion. Dans une mise en scène adaptée, de jeunes humoristes se prêtent au jeu.
Oh, je t'assure, j'ai eu le bac, je t'ai dit. Ils m'ont envoyé le message là, il n'y a pas longtemps là. Toi, tu as déjà reçu ton message?
Après avoir satisfait à l'examen, Emeran Lucas, humoriste, tourne un de ses amis en dérision alors que ce dernier, presque au bord des larmes, commence à perdre patience. Marius Nzengue, humoriste.
On m'a pas encore envoyé le message. Attends, d'abord je vérifie.
Quoi? Tu vas vérifier quoi?
Cette situation présente le cas d'un candidat à journée qui ne reçoit pas de notification, comme l'avait précisé plus tôt un communiqué du ministère gabonais de l'Éducation nationale. Fabien Matombi est un informaticien qui approuve la dématérialisation des résultats du baccalauréat.
Il y a des élèves mal intentionnés quand ils arrivent, quand on publie les noms sur les listes, et ils arrivent, ils déchirent les listes, soit les autres n'ont plus le temps de venir voir leur nom. Moi, je trouve que c'est une bonne initiative que le gouvernement a pris pour envoyer les résultats par messagerie.
Justifié ou non, cet argument parmi tant d'autres portant publication des résultats de l'examen par SMS ne convainc pas Yannick Ndombi, père de famille.
Pourquoi tu nous mets en radio, mais par la télévision, pourquoi, comme avant, ouais. Ouais, tout vraiment que là, c'est pas normal.
La mesure gouvernementale inquiète plus qu'elle ne rassure les premiers acteurs de l'examen. Nicole Mengue est candidate du baccalauréat.
Il faut s'arranger à ce que chacun ait ne serait-ce qu'un téléphone ou un Android pour pouvoir recevoir ses résultats, en fait.
Le gouvernement n'y a visiblement pas pensé. La décision du ministère de l'Éducation nationale tient compte du respect de la distanciation sociale par ces temps de crise sanitaire. Surtout que l'annonce des résultats du baccalauréat mobilise les foules. Etienne Mba est enseignant.
Nous sommes dans un contexte particulièrement difficile qui exige le respect d'un ensemble de mesures, notamment le respect des gestes barrières, la distanciation, le non-rassemblement de plus de 10 personnes. Donc c'est tant de difficultés auxquelles on est confronté qui exigent que l'on puisse opter pour la messagerie.
Plus de 30 000 candidats attendent les résultats d'un examen marqué cette année par la mise à nu d'un réseau de trafic de bulletins de notes, une fraude visant des élèves et plusieurs dirigeants d'établissements scolaires. Libreville, Ismaël Obiangze pour VO Afrique.
Abdourahman Dia avec vous, cette semaine dans Washington Forum, l'après-coup d'État au Mali. La junte militaire qui a déposé l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta poursuit ses consultations avec les différentes composantes politiques, économiques et sociales du pays sur la transition. La CDAO, elle, insiste sur une transition civile et l'organisation d'élections dans un délai de 12 mois. Quel doit être le rôle des militaires dans cette transition? Comment assurer une transition paisible et consensuelle? Rendez-vous ce jeudi 3 septembre à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Les tension raciale en Amérique occupe le devant de la scène dans la campagne présidentielle à la suite d'affrontements meurtriers entre les manifestants de Black Lives Matter et les partisans blancs du président Donald Trump. Au cours du week-end écoulé, le président américain a réagi avec un message fort fondé sur le respect de la loi et de l'ordre, tandis que son rival démocrate Joe Biden a accusé Donald Trump hier d'encourager imprudemment la violence. Le compte-rendu de Brian Padden est relaté par Jacques Aristide.
Le candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden a critiqué lundi le président pour la violence meurtrière du week-end après des affrontements à Portland dans l'Oregon entre des partisans de Donald Trump et des manifestants pro-égalité raciale.
Il peut croire que prononcer les mots « loi et ordre » le rend fort, mais son incapacité à appeler ses propres partisans à cesser d'agir en tant que milice armée dans ce pays montre à quel point il est faible.
Samedi à Portland, une personne a été tuée par balle après des affrontements entre des partisans de Trump, certains d'entre eux armés, et des manifestants de Black Lives Matter qui tiennent à des protestations nocturnes depuis 3 mois. La victime était affiliée à un groupe d'activistes conservateurs appelé Patriot Prayer. Dimanche, sur Twitter, le président Trump a qualifié les contre-manifestants de Portland qui le soutiennent de grands patriotes. La semaine dernière, à Kenosha, dans le Wisconsin, un partisan de Trump a tiré sur 3 personnes, dont 2 mortellement, lors de manifestations qui ont éclaté après qu'un homme noir a reçu 7 balles dans le dos lors d'un affrontement avec la police. Lors de la convention républicaine, le président Trump a dénoncé les manifestants pour l'égalité raciale comme des anarchistes et a critiqué les démocrates pour avoir toléré la violence commise par ces groupes afin de maintenir le soutien des électeurs afro-américains.
Si le Parti démocrate veut se tenir aux côtés des anarchistes, des agitateurs, des émeutiers, des pillards et des brûleurs de drapeaux, c'est à eux de décider. Mais moi, en tant que votre président, je n'en ferai pas partie.
Biden a vivement dénoncé hier toute violence commise par des partisans ou des opposants.
C'est l'anarchie pure et simple. Et ceux qui en sont les auteurs devraient être poursuivis. La violence n'apportera pas de changement. Cela n'apportera que la destruction.
Le président Trump a prévu de visiter Kenosha, même si le gouverneur démocrate du Wisconsin, Tony Evers, l'a exhorté à ne pas venir en écrivant ceci dans une lettre. Votre présence ne fera que retarder ce que nous faisons pour surmonter la division. Le maire démocrate de Portland, Ted Wheeler, a également critiqué Trump pour, selon lui, avoir fomenté la haine et la division dans le pays. Trump a qualifié Wheeler d'imbécile sur Twitter pour ne pas avoir recours à la garde nationale pour rétablir l'ordre. Biden a tenté de faire de l'incapacité de Trump à contenir la pandémie de coronavirus le principal enjeu de la campagne. Il reste à déterminer si le message de Trump sur la loi et l'ordre changera la dynamique. Les sondages indiquent que l'avance de Biden sur Trump se réduit dans des États clés comme le Michigan et la Pennsylvanie.
Écoutez VOA Afrique désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains. Du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 555 de Canal.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Josèle Morissin, Michel Joseph, Lionel Gaïma et Georges Léonard Sagno. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24h sur 24, un seul site internet, voaafrique.com. sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.